Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
L'économie prend les armes sur France Culture. Nouvelle semaine consacrée au marché de l'armement et à ses enjeux politiques et géopolitiques. Demain, on se demandera si la recherche militaire constitue toujours un tremplin pour l'innovation. Mercredi, on suivra les chemins de traverse du trafic d'armes. Jeudi, c'est l'industrie de l'armement, gage de souveraineté, qui nous intéressera. Mais d'abord, la guerre est-elle un moteur pour l'économie ? La Première Guerre mondiale a provoqué l'essor accéléré de l'industrie française et la mobilisation de tout un pays. Cette guerre totale, selon les mots du général allemand Ludendorff, a-t-elle été facteur de croissance ? Et plus largement, quels sont les effets de la guerre sur l'économie ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de l'économie de la Grande Guerre en compagnie de Jacques Fontanelle, professeur émérite d'économie à l'Université Pierre Mendès France à Grenoble et auteur de l'économie des armes publié à La Découverte, en compagnie également de Patrick Fridançon, historien, directeur d'études à l'EHESS et co-directeur de l'ouvrage « L'industrie dans la Grande Guerre » paru aux éditions du Comité pour l'histoire économique et financière de la France. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Jacques Fontanelle et Patrick Fridançon, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour.
Beaucoup d'être avec nous. Alors la guerre et l'économie entretiennent des relations particulièrement complexes, on va le voir. Ce que l'on peut dire, peut-être pour commencer, Jacques Fontanelle, c'est que la guerre a d'abord été conçue comme un moyen de s'approprier des richesses.
C'est un moyen d'abord de prédation, c'est-à-dire la guerre elle est née lorsque on a voulu récupérer la fortune des autres. Pour s'en donner une image, je pense que si vous avez vu Les Sept Samouraïs, ce fameux film japonais où il y a toute une un village qui essaye de produire un peu d'agriculture et qui chaque année se fait attaquer par des pirates. Au bout d'un certain moment, ils sont obligés de chercher des samouraïs pour se protéger. Autrement dit, la guerre, c'est presque toujours quelque chose qui a pour volonté première, en tout cas, de prendre ce que les autres ont.
Et d'ailleurs, alors, on le retrouve dans l'art de la guerre de Sun Tzu, ce général chinois du 6e siècle avant Jésus-Christ.
Avec une différence très importante chez Sun Tzu, c'est que lui, il aime pas vraiment la guerre. Il souhaite que la guerre... on respecte les gens, on respecte les cultures, on détruit le minimum, on essaie de jouer plutôt de la ruse. C'est une analyse beaucoup plus intelligente que celle que généralement on présente de la guerre.
Et donc il y a la guerre prédation et la guerre comme volonté de puissance.
Alors voilà, c'est les deux aspects. Les premiers économistes qui ont abordé la question de la guerre, ce sont les mercantilistes. Et pour eux, le principal objet, c'est la puissance du prince. Donc on pense que la richesse c'est l'or, on pense que la richesse c'est des métaux précieux, mais en même temps ce que l'on souhaite d'abord et avant tout c'est la puissance du prince. Ce qui implique par exemple quelqu'un qui est très connu en France comme Colbert, à vouloir que l'économie française soit complètement autarcique, à vouloir que si elle ne l'est pas, elle prenne des dispositions guerrières pour pouvoir les récupérer. Et il souhaite que il y ait une volonté de ne pas aider, soutenir les autres pays, même lorsque nous sommes en surproduction agricole. C'est arrivé à un certain moment où l'Espagne se trouve en grande difficulté de famine, où la France est à des surplus, et où il est refusé à l'Espagne de lui vendre ce surplus, parce qu'ils estimaient que cela affaiblirait la royauté espagnole. Donc on voit bien, c'est un élément de puissance.
Et alors on va faire un saut dans le temps, du 17e jusqu'à la révolution industrielle. Pour l'économiste Werner Sombart, chef de file de la jeune école historique allemande, les besoins militaires ont favorisé l'essor de l'industrie et du système capitaliste.
Ah oui, tout
à fait. C'est aussi cela, le rôle de la guerre.
Tout à fait. Mais c'est une école historique allemande dont pourrait parler mon collègue, qui est très favorable à la guerre. C'est une période, enfin beaucoup d'entre eux, en tout cas de la protection, puisque l'un des tout premiers, c'est Liszt, qui considère que on doit se protéger fondamentalement. Il est contre la globalisation telle qu'on pourrait l'entendre. Contre, je dirais, la liberté du commerce et de l'industrie, simplement parce qu'il estime que on n'a pas les forces productives suffisantes. L'Allemagne, à l'époque, n'a pas les forces productives suffisantes. Et donc, si on veut la récupérer dans l'esprit de Liszt, il faudrait que l'Allemagne s'étende, qu'elle aille pratiquement jusqu'à la Roumanie, et que cette fois, l'Allemagne serait capable d'ouvrir ses frontières. Donc vous voyez bien qu'il y a une conception particulière. Elle n'est pas en soi guerrière, mais elle suppose quand même qu'il y ait des accords pour que l'Allemagne s'étende.
Alors que pour les marxistes, en revanche, le capitalisme, c'est déjà la guerre. C'est-à-dire il porte en lui les logiques qui mènent à la guerre.
Alors pour les marxistes, il y a deux conceptions. Il n'y a qu'une conception, mais avec un élargissement. Il y a, chez Marx, par exemple... la guerre, c'est d'abord la lutte des classes. C'est ça, le fondement de la guerre. Et les guerres entre les États, c'est l'impérialisme dont va parler par la suite Rosa Luxembourg ou Lénine. Autrement dit, comme le disait, je ne me rappelle plus quel auteur, c'est l'histoire de personnes qui se connaissent bien et qui sont souvent cousins, qui déclarent la guerre et qui ne la font pas. Et qui envoie des gens qui ne se connaissent pas et qui vont se faire tuer.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un petit peu ce processus-là. C'est-à-dire que quand on regarde la première guerre mondiale, dont on va parler tout à l'heure mon collègue, on se rend compte qu'au fond, c'est une affaire presque de famille. Que, bien sûr, on peut trouver des raisons économiques aussi, notamment les affaires coloniales, mais qu'au fond, c'est aussi un rapport de puissance qui s'instaure.
Mais il y a cette idée très forte quand même que les conflits internationaux, vous parliez d'impérialisme, sont une conséquence des contradictions du capitalisme.
Ah oui, mais bien sûr, mais la lutte des classes, c'est ça la base. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez des gens qui vont être les bourgeois, qui seront de plus en plus riches, alors que les personnes, et qui de plus en plus riches, mais en même temps de moins en moins nombreux, et d'autre part des gens qui seront toujours au minimum vital, quoi, globalement. Au fond, le marxiste reprenne une idée qui existait auparavant, qui est celle de Malthus, c'est-à-dire que on n'est pas capable de produire suffisamment pour toute la population, et à partir de ce moment-là, soit il y a la famine, soit on fait plus d'enfants, soit il y a la guerre. Hein, c'était le principe... qu'avait établi Malthus.
Et en même temps, pour certains marxistes américains, les dépenses militaires permettent d'absorber les excès d'offres. Ce qui voudrait dire que la dépense militaire pourrait être bonne pour la prospérité d'un État.
Oui, Baran et Swizy l'ont beaucoup expliqué. Mais même, il y a quelque chose qui est très intéressant. Il y a 2 ans, les responsables de MIT sont intervenus auprès de Obama en lui demandant de continuer à développer le militaire, le secteur militaire, parce qu'ils en avaient besoin pour leur recherche. Et que si il n'y avait pas un financement complémentaire, eh bien, les États-Unis seraient dépassés. Les États-Unis étaient déjà dépassés en matière de supercomputers. Les Chinois faisaient avec la physique quantique, arrivaient à des résultats nettement meilleurs. Et il expliquait que la comité expliquait que s'il n'y avait pas un soutien fort dans le secteur militaire pour en termes de recherche, les États-Unis prendraient du retard.
Alors on va reparler des liens effectivement entre recherche militaire et innovation dans notre émission demain. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'intéresse plus en détail à la Grande Guerre, qui est emblématique de ces liaisons complexes entre conflit et économie. En 1914, je le disais, c'est un pays tout entier qui s'est mobilisé. Écoutons les mots du général de Gaulle lors de la cérémonie célébrant le 50e anniversaire du 11 novembre 1918.
Certes, la République mobilisa et mit en ligne, dès les premiers jours, une armée puissante, ardente et longuement préparée. Mais cette armée était dépourvue d'artillerie lourde, insuffisamment dotée d'armes automatiques, médiocrement outillée en moyens de transmission, d'observation, de transport. Et cependant, en dépit de tout, La France tint bon jusqu'au jour où elle se fut mise elle-même en mesure de se saisir de la victoire. C'est qu'elle sut compenser à mesure tant de lacunes, d'inconséquences, de retards, par une cohésion nationale, une capacité de sacrifice, un déploiement de valeurs humaines sans exemple dans son histoire.
Voilà, selon le général de Gaulle, c'est la mobilisation de tout un pays et le développement d'une économie de guerre qui ont permis la victoire. Patrick Fridançon.
Alors, le général de Gaulle parle naturellement en témoin, puisque dans la période de la Première Guerre mondiale, il est le capitaine de Gaulle, et qui va d'ailleurs être capturé par les troupes allemandes. Mais ce qu'il dit, ça décrit très bien ce qui fait la force de la France dans cette guerre, alors que les débuts sont tout à fait mauvais. La force, c'est ce que j'ai appelé un modèle pluraliste, c'est-à-dire que la France, c'est à la fois des politiques, des militaires, des syndicalistes et des parlementaires. C'est-à-dire, dans les trois principales puissances, les autres étant évidemment l'Allemagne et la Grande-Bretagne, la France a le modèle le plus compliqué, mais c'est celui qui arrive à faire en sorte que, tout en étant conflictuel, tout en souffrant terriblement, elle arrive à tenir et à emporter cette guerre, non pas seule, mais avec l'appui de la Grande-Bretagne et des États-Unis.
Alors on va revenir évidemment sur tous les acteurs que vous avez cités, Patrick Fridançon. Mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le déclenchement de la Grande Guerre en 1914 met fin à une paix de 100 ans, selon les mots de l'économiste Karl Polanyi. Et donc cela met fin par conséquent à un contexte qui était favorable à la croissance.
Alors, qu'il y ait eu une croissance au XIXe siècle et que, sur le plan économique, la France et la Grande-Bretagne en aient été les moteurs et les pionniers pendant longtemps, c'est tout à fait vrai. Mais dans les années postérieures à 1870, en gros, le relais de croissance avait été pris par les États-Unis et par l'Allemagne. Et donc, on a quand même aussi le conflit entre des vieux pays et puis le leader émergent qui est l'Allemagne.
Et alors, selon l'économiste Robert Boyer, les épisodes de guerre représentent un laboratoire social capable d'entraîner de grandes transformations. En l'occurrence, c'est le rôle de l'État qui a été particulièrement transformé pendant la Grande Guerre.
Alors, le rôle de l'État, c'est vrai naturellement pour tous les pays, y compris pour les États-Unis, qu'on présente souvent comme un pays de libre entreprise, de fermiers, d'entrepreneurs, etc. Mais pour la France, c'est particulièrement frappant parce que on a beau parler d'un État de type napoléonien, si on regarde ce qu'était le ministère des Finances, il était tout petit. Si on regarde ce qu'était le ministère de l'Industrie, qui était d'ailleurs le ministère du Commerce et de l'Industrie, ou le ministère de l'Agriculture, il était tout petit.
Et ce sont ces ministères qui vont prendre de l'ampleur ?
Donc, les ministères vont prendre de l'ampleur, il va s'en créer d'autres. Il va y avoir un ministère du blocus, il va y avoir un ministère de l'armement, il va y avoir un développement du ministère des travaux publics, du ministère du travail. Et donc, la question de base, c'est non seulement chacun de ces ministères croît, mais faut-il qu'ils marchent ensemble ? Parce que l'État, c'est toujours extrêmement hétérogène, c'est extrêmement compliqué. Et
quelles solutions vont-ils trouver alors ?
Ils vont trouver des solutions internes, des solutions externes. Les solutions externes, ça va être les conférences économiques interalliées qui vont leur permettre de travailler davantage avec les Britanniques et, à partir de 1917, avec les Américains. Et au plan interne, ce sont de multiples comités qui vont des réunions, si j'ose dire, à toute heure du jour et de la nuit, et finalement des processus de coordination. Alors à cela, il y a des raisons d'urgence, mais là où je suis, pour le coup, ce que suggère le général de Gaulle, Il y a l'installation progressive d'une véritable planification.
Oui, parce que l'État a mis un peu de temps à adapter son économie à la guerre. Au début, on pensait que les arsenaux de l'État seraient suffisants pour équiper l'armée.
Alors, effectivement, on a vu arriver un moment où il allait ne plus y avoir d'obus. Et donc, il a fallu improviser, et c'est ici le rôle notamment de Louis Renault, qui, appelé par les chefs militaires catastrophés en plein mois d'août 1914, improvise une autre façon de faire des obus. Mais on a la même improvisation dans l'aviation, parce que l'aviation, avant la guerre, ça n'était pas une arme, c'était soit un objet touristique, soit un moyen de transport civil. Et l'aviation va devenir progressivement aviation de reconnaissance, puis aviation de chasse et aviation de bombardement.
Donc, l'État va en fait travailler avec les industriels privés pour transformer ces industries classiques en industries d'armement. En fait, ce sont les prémices d'une économie mixte, Patrick Fridançon.
Il y a une économie mixte dans tous les domaines. On le trouvera aussi dans la flotte marchande, qui va devenir pratiquement co-gérée avec l'État. Et donc vous avez un État qui à la fois s'alourdit pour faire face aux nécessités militaires et aux nécessités civiles, et qui parvient malgré tout à obtenir un tout petit peu d'agilité et à surmonter ces contradictions. J'ajoute quand même un dernier point, cet État, il n'a pas l'argent pour faire la guerre.
Donc, il va devoir s'endetter très largement.
Il va s'endetter auprès des Français, ça c'est les emprunts qu'on trouve encore dans les greniers des familles qui sont là depuis longtemps en France. Il va s'endetter auprès des États-Unis, auprès de la Grande-Bretagne, et puis il va faire marcher la planche à billets, c'est-à-dire il va recourir à l'inflation. Alors l'inflation n'est pas nouvelle.
Vous abordez plein de points, Patrick Fridançon, très intéressant. On va y revenir évidemment, mais Jacques Fontanelle voulait réagir.
Je voudrais dire que le rôle de l'État était quand même déjà important à l'époque. Ne serait-ce que pour les rapports avec les autres États, dans les rapports, les échanges, etc. Il faut quand même rappeler que les États-Unis, pendant toujours, se présentent comme des partisans de Jefferson, c'est-à-dire une sorte de libéralisme très large, alors que d'un autre côté, ils sont plutôt hamiltoniens, c'est-à-dire qu'ils se sont protégés énormément pendant plus d'un siècle. C'est-à-dire qu'ils ont protégé leur économie, ils ont protégé... Donc il y a un rôle de l'État qui n'est pas négligeable, c'est ce que je voudrais dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que le gouvernement n'était pas structuré pour l'organisation d'une guerre, etc., que pour autant, il ne jouait pas un rôle très important. Simplement pour signaler que dans les années, au fin du 19e siècle, beaucoup de gens pensent qu'il n'y aura pratiquement plus de guerre. Le seul qui dit qu'il va y avoir une guerre, c'est Engels, qui est l'ami de Karl Marx, qui dit qu'il y aura une grande guerre industrielle, violente, qui sera très destructrice et qui permettra au socialisme d'apparaître. Ce qui a été un petit peu vrai, puisqu'il y a eu, dans la guerre de 14-18, l'apparition de l'Union soviétique.
Alors Patrick Fridançon n'a pas l'air tout à fait d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord sur deux points. Premier point, Engels n'est évidemment pas seul. Pour ne parler que d'un Français, Jean Jaurès.
Jaurès a... Oui, mais c'est en 14, ça. J'ai dit 19e.
Avant. Il a vu pointer les dangers de la guerre. Et on sait qu'il sera assassiné avant même que la guerre éclate. Et la deuxième chose, c'est que les États, pour toutes les raisons que vous avez données, pensent le monde et pas seulement leur petit précaré, et que ils cherchent soit à s'étendre, soit à se barricader. J'entends bien, mais ce que je visais dans le cas français, c'est la taille des États. Or, si on prend une mesure cette taille par le nombre de fonctionnaires, et le nombre de fonctionnaires en France avant 1914, il est petit. Et en particulier dans les ministères économiques. Un des plus gros ministères, en revanche, je vous l'accorde très volontiers, c'est le ministère de la guerre. Mais Là, une guerre, c'est à la fois un front intérieur et c'est un front militaire. Et donc, la guerre va pousser l'État à grossir et, comme je l'ai dit, à essayer de planifier de manière à pouvoir tenir bon ou, si possible, avoir un coup d'avance sur ses adversaires.
Alors, c'est un investissement de l'État qui a permis à certains industriels de faire fortune. Vous citiez tout à l'heure Louis Renault, qui est mobilisé donc par la Défense nationale. Renault qui va fabriquer des camions, des ambulances, des moteurs d'avion et même des chars. C'est ce que racontait en 1984 un ancien ingénieur de Renault dans l'émission « L'auto s'en va en guerre ».
Un beau jour, M. Renault nous dit qu'il faut faire quelque chose d'extrêmement léger. Ces chars, évidemment, avaient un gros avantage, parce que Schneider et Saint-Chamond avaient fait un char beaucoup trop lourd, et la carrosserie englobait complètement la chaîne, de façon que quand il piquait dans une tranchée, il ne pouvait pas s'en sortir. Tandis que l'idée de M. Renault était de faire un petit char, comme celui qui est là, avec ce qu'on appelle des chenilles prenantes. Aussitôt piqué dans une tranchée, la chenille s'attaquait à la paroi opposée et on en sortait très facilement.
Voilà, les chars légers de Renault vont avoir une incidence déterminante sur l'issue de la guerre, Patrick Fridançon, et plus largement illustre peut-être cet investissement des industriels français pendant la Première Guerre mondiale.
Alors, investissement, oui, parce qu'il a fallu concevoir de nouveaux produits, il a fallu recruter des ingénieurs, recruter des ouvriers et des ouvrières, bâtir des usines pour faire face à la menace et au danger. En même temps, tout ça n'aurait pas été possible sans ce qu'on appelait l'arrière, c'est-à-dire le milieu civil, les universités, les écoles d'ingénieurs, l'Académie des sciences, que sais-je. Mais il fallait bien un moteur, et dans le système français, contrairement à l'Allemagne, le moteur, ça n'est pas les militaires, ce sont les civils.
En l'occurrence, pour Renault, c'est une période d'expansion industrielle absolument phénoménale.
Alors, Renault quadruple sa taille, son chiffre d'affaires, quintuple ses effectifs. Mais à vrai dire, à peu près tous les secteurs qui travaillent pour l'armée marchent à plein régime. Un des domaines les plus spectaculaires, c'est celui de la chimie. Et en revanche, une industrie dont l'élan était très fort et qui bénéficie modérément de la guerre, c'est l'aluminium.
Alors on va revenir à la question de la chimie qui est en effet essentielle, mais on parlait tout à l'heure de la création de ministères qui vont permettre de coordonner cet effort de guerre. En l'occurrence, le ministère de la guerre, Alexandre Millerand, va créer des groupes régionaux d'industriels qui vont se répartir l'effort de guerre et signer des contrats avec l'État. Et il va y avoir cette réunion des industriels à Bordeaux en septembre 1914, qui est une réunion très importante. Patrick Fridançon.
Oui, parce que la réunion de Bordeaux en septembre 1914, elle prend acte d'une chose, c'est que les armes de l'État ne suffisent pas à faire gagner la guerre. Les armes de l'État, c'est-à-dire ce qui est fabriqué dans les arsenaux. Et donc, on avait auparavant un secteur qui allait produire des armes pour l'étranger, qui était Schneider, dont il vient d'être question, qui était Saint-Chamond aussi, Schneider étant au Creusot, mais qui étaient, eux, des fabricants privés, mais qui allaient essentiellement faire les guerres des autres. Et là, ce que dit Bordeaux, c'est que entre ces industriels qui travaillaient pour l'exportation, ces arsenaux d'État qui travaillaient pour le gouvernement français, les deux, ça ne suffit pas. Il faut encore mettre des gens qui ne faisaient pas la guerre auparavant, dont les fabricants de voitures, les fabricants d'avions et les fabricants de produits chimiques, pour faire extrêmement bref. Et donc, il y a une espèce de condominium entre l'État, les fabricants privés nouveaux et les fabricants privés anciens.
Et c'est lorsqu'on comprend que le conflit va durer, que la production industrielle va se structurer encore davantage. C'est là que le ministère de l'Armement va être créé en particulier.
Alors, le ministère de l'Armement, c'est deux personnages successifs pendant la guerre. C'est un socialiste, qu'on appellera à l'époque agressivement un socialiste de guerre, c'est Albert Thomas, et c'est un industriel qui va être son second puis lui succéder, c'est Louis Loucheur. Donc, et c'est assez typique du modèle français. On a un pur produit du système politique, un élève de l'école normale supérieure, et de l'autre côté, un élève de Polytechnique qui est un pur produit du système industriel. Et les deux, ce qui n'est pas si fréquent, marchent ensemble. Mais tout ceci, je le répète, avec des conflits entre eux, au sein de l'État, avec les militaires, et au sein de la société.
Et en même temps, c'est un dispositif industriel qui fonctionne bien. On va produire à partir de 1916 100 000 obus par jour, parce qu'il y a une demande qui est évidemment absolument colossale, Patrick Fridançon.
La demande est extrêmement forte. Elle est liée au fait que cette guerre est une guerre de destruction massive, il faut quand même le dire. Destruction massive des lieux, des armes des autres, mais destruction massive aussi des personnes. C'est une guerre qui va faire beaucoup de morts, beaucoup plus de morts proportionnellement que les autres guerres, qui va faire des blessés, qui va faire des handicapés. Et donc...
Mais est-ce qu'il faut considérer que c'est à ce moment-là, véritablement, que les structures industrielles se développent, ou est-ce que finalement, elles existaient déjà avant? C'est ce que pensent certains historiens.
Alors, c'est une question qui est extrêmement débattue. Vous avez d'un côté une force de l'industrie française à la Belle Époque, qui a été fortement mise en valeur par les recherches des historiens, mais il y a aussi une capacité d'adaptation, et puis aussi une capacité de faire face au fait que tout le nord de la France et une bonne partie de l'Est sont occupés par les troupes allemandes. Mmh. C'est-à-dire que on n'a pas du tout, on n'est pas dans la situation de la Grande-Bretagne qui est protégée par la situation insulaire. On a un pays envahi, et ce pays envahi, il se réadapte. Alors, ça marche bien dans un certain nombre de régions, ça marche mal dans d'autres régions.
Et c'est ce qui explique aussi que le secteur ferroviaire va être mis à l'arrêt en France à cette époque-là, puisqu'une bonne partie de l'industrie ferroviaire se trouve dans le nord de la France occupée.
Oui, et là, vous pointez un autre élément des guerres dont on n'a pas encore parlé, c'est les effets d'usure. C'est-à-dire que, du coup, le réseau ferré et le matériel ferroviaire vont être terriblement usés pendant la guerre. Ça va être la même chose du côté maritime. Et donc, on a toute une partie de ce qui faisait la force de l'économie française qui se retrouve parvenant à la victoire, mais ensuite dans un état épouvantable.
Vous parliez tout à l'heure des ouvriers, des ouvrières. Patrick Fridançon, on va en reparler dans un instant, et aussi de la nouvelle place que vont prendre les syndicats.
Le sentier de la guerre passait par une fleur solitaire qui n'en avait pas peur. Le sentier de la guerre passait par un lézard jaune et vert, vif comme le hasard. Le sentier de la guerre passait par un enfant qui jouait à la guerre, car c'était un enfant. Il passait par un trille d'oiseaux dans une treille, il passait par une fille tatouée de soleil. Le sentier de la guerre passait par une mère, sa robe était très noire et très blanc son mouchoir. Au bout de ce sentier, attendez, pas de quartier, attendez les canons, attendez l'éclairant, attendez les civières, le sang dans la poussière, le fer dans la peau, à l'ombre des drapeaux. Sur le sentier de la guerre, la fille avec la fleur, l'enfant avec la mère, et puis l'oiseau siffleur. Sur le sentier de la guerre, à côté du lézard, tous ils se rencontrèrent, guidés par le hasard. Sur le sentier de la guerre, ils devinrent amis, car il n'y avait guère d'amour dans ce pays. La mère et la brindille, le lait
les arts et l'enfant. L'oiseau avec la fille se mirent en avant. Sur le sentier de la guerre se mirent en travers. Croyez-moi oui ou non, il n'y eut pas de guerre. C'est un soldat du bataillon qui fit cette chanson.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
C'était le sentier de la guerre de Paul Perry, la guerre comme moteur de l'économie. C'est notre sujet aujourd'hui avec Jacques Fontanelle et Patrick Fridançon. Alors on s'est arrêté à peu près au milieu de la Première Guerre mondiale, Patrick Fridançon, en 2016, en 1916. La production dépasse enfin la demande. On peut alors se concentrer sur l'efficacité du matériel. C'est à ce moment-là qu'on va se mettre à créer des armes plus modernes.
L'idée de créer des armes plus modernes est apparue avant. Les origines lointaines du char dont vous avez parlé, ça remonte à 1915. Mais il y a toutes sortes de choses qui sont en même temps. Il y a la rationalisation du travail. Et donc, il y a un appel beaucoup plus grand au système de l'ingénieur américain Taylor pour obtenir une production et une productivité beaucoup plus grandes. Et il y a des armes nouvelles. La chimie en est un terrain redoutable puisque il va y avoir des explosifs et il va y avoir des gaz. Et les gaz vont être lancés en premier par les Allemands, mais les Français vont être amenés à répliquer.
Notamment grâce au chimiste Fritz Haber qui va diriger des recherches sur les gaz toxiques. C'est lui qui met au point le gaz chloré.
C'est lui qui met au point le gaz chloré. Il va aussi mettre au point la synthèse de l'ammoniac. Et ici, on est au cœur de notre sujet parce que la synthèse de l'ammoniac va lui valoir le prix Nobel de chimie.
Que permet la synthèse de l'ammoniac?
Elle permet deux choses. Elle permet de faire des engrais pour l'agriculture de manière beaucoup plus facile et elle permet de faire des explosifs beaucoup plus ravageurs.
On voit bien les usages civils et militaires.
Voilà, vous avez les deux faces de la médaille. Un produit dual, effectivement, comme le dit Jacques Fontanelle. Et donc, on a effectivement une période qui est propice à l'invention et l'État va créer, dans la même logique que décrivais tout à l'heure, un secrétariat d'État aux inventions qui va devenir par la suite une direction des inventions de manière à utiliser tout le potentiel d'invention des civils et les canaliser vers les usages militaires.
Vous parliez de rationalisation, Patrick Fridançon. La guerre a effectivement également accéléré la mise en application du taylorisme dans les usines. C'est ce que nous explique l'historien Gérard Wint au micro de Jean Lebrun sur France Inter.
Il y a des industries qui sont clairement taylorisées. La fabrication d'obus dans des grandes entreprises, l'exemple de Citroën est emblématique. Ça, c'est, vraiment, il y a une application du travail à la chaîne. On va le retrouver aussi dans des ateliers de fabrication de masques à gaz. Par exemple, Michelin, qui est un taylorien militant, met sur pied un atelier de fabrication de masques à gaz taylorisés. Il y a des portions, je dirais, de fabrication dans l'automobile qui commencent à être taylorisées, mais ça reste quand même extrêmement timide.
Ce sont vraiment les nécessités de la guerre qui vont inciter à rationaliser les méthodes de travail, Patrick Fridançon.
Il y a les nécessités de la guerre et les industriels sont les industriels, c'est-à-dire qu'ils veulent faire des bénéfices. Ils veulent croître. Et d'autre part, il y a un problème gigantesque de pénurie de main-d'œuvre. Parce que vous avez deux sources de main-d'œuvre. Vous avez les paysans, et les paysans ne vont plus à l'usine. Quand ils vont ailleurs, ils vont à la guerre. Et vous savez que la paysannerie est victime massivement de la guerre. Et les ouvriers, ou bien ils sont à la guerre, quand on ne les traite pas d'embusqués, sinon ils sont au front intérieur dans les usines, mais ils ne sont pas assez nombreux. Donc mécanisation, mais les machines coûtent cher. Il est très difficile d'en obtenir parce qu'il y a des sous-marins allemands qui vont attaquer tous les transports qui font la navette, notamment avec les États-Unis ou avec la Grande-Bretagne.
Alors, il faut bien accepter que les femmes travaillent. Donc, et c'est là qu'on a des nouveaux arrivants sur le marché du travail.
Donc, on fait à la fois, on utilise le système Taylor pour faire plus avec les mêmes, mais on fait venir des femmes. Il y avait déjà des femmes qui travaillaient, par exemple, dans le textile avant la guerre. Mais on fait venir des femmes dans les usines de guerre et on va les appeler les munitionnettes. Et on fait venir des jeunes, des très jeunes. On fait venir des vieux, des très vieux. Et on fait venir des immigrés. Non pas ceux qui étaient là avant la guerre, il y en avait déjà du côté des Italiens ou des Belges. On fait venir une main-d'œuvre coloniale, on fait venir une main-d'œuvre chinoise, et on fait venir aussi des gens d'Afrique du Nord, d'Indochine, d'Espagne, du Portugal. Donc, une partie des usines deviennent, dès cette époque, des tours de Babel.
Et alors dans les usines Renault, par exemple, le nombre d'ouvrières, donc ces munitionnettes dont vous parlez, est multiplié par 10 pendant la guerre. Je vous propose d'écouter le témoignage de la journaliste Marcelle Capi, qui a travaillé incognito dans une usine d'armement. Elle raconte son expérience dans le journal féministe La Voix des Femmes. C'était en novembre 1917.
L'ouvrière, toujours debout, saisit l'obus, le porte sur l'appareil dont elle soulève la partie supérieure. L'engin en place, elle abaisse cette partie, vérifie les dimensions, c'est le but de l'opération. Relève la cloche, prend l'obus et le dépose à gauche. Chaque obus pèse 7 kilos. En temps de production normale, 2500 obus passent en 11 heures entre ses mains. Comme elle doit soulever deux fois chaque engin, elle soupèse en un jour 35 000 kilos. Au bout de trois quarts d'heure, je me suis avoué vaincu. J'ai vu ma compagne, toute frêle, toute jeune, toute gentille, dans son grand tablier noir, poursuivre sa besogne. Elle est à la cloche depuis un an. 900 000 obus sont passés entre ses doigts. Elle a donc soulevé un fardeau de 7 millions de kilos. Arrivée fraîche et forte à l'usine, elle a perdu ses belles couleurs et n'est plus qu'une mince fillette épuisée. Je la regarde avec stupeur et ses mots résonnent dans ma tête. 35 000 kilos.
Un extrait lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Les femmes ont donc joué un rôle déterminant pendant la guerre en effectuant des tâches qui pouvaient être extrêmement physiques, Patrick Fridançon.
Alors, quand on dit tâches extrêmement physiques, on pense, en écoutant cet extrait de Marcel Capi, à ce que dira 20 ans plus tard la philosophe Simone Veil lorsqu'elle se mettra à travailler à l'usine, et ça donnera ce fameux livre après sa mort, La condition ouvrière, qui est un des plus grands livres que la France ait produit sur ce sujet. Les femmes, elles travaillent sous les ordres des hommes et elles ont à faire face aux hommes. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes leur reconnaissent des vertus qui sont la capacité à travailler de manière répétitive, à faire la même chose et à obéir. Ça n'est pas exactement ce que les femmes pensent. Et donc, elles se révoltent, elles font grève, elles demandent l'égalité des salaires, elles demandent des progressions de carrière, elles demandent des crèches, des installations, des cantines, des installations à l'intérieur des usines. Et elles demandent que, dans les syndicats, elles ne soient pas traitées comme les dernières de la classe.
Et alors, qu'est-ce qu'elles obtiennent ?
Alors, elles obtiennent un certain nombre de choses. Elles obtiennent des augmentations de salaire, mais elles obtiennent par souvent par l'action syndicale ou par la grève spontanée ou par la manifestation de rue. Elles obtiennent, dans les plus grandes entreprises, un certain nombre d'installations sanitaires et sociales. Elles obtiennent une plus grande place dans les syndicats. Pour autant, ça n'est pas encore l'égalité.
Bien sûr, mais alors syndicats qui se développent aussi très largement à cette période, c'est vraiment un moment où ils montent en puissance. Comment l'expliquer, Patrick Fridançon ?
La montée est tout à fait forte. La CGT était tombée à 50 000 membres en octobre 1914. En 1917, elle est à 1 million et elle va frôler les 2 millions fin 1918, début 1919. Parce que vous avez deux choses. Vous avez l'inflation. Et que faire quand vous voyez que les prix montent et que les salaires ne suivent pas. Il y a des réactions de masse. Et que faire lorsque vous faites 60 heures par semaine, lorsqu'il y a des accidents du travail nombreux, et que tout ce qui est le quotidien est soumis à l'usure, à la fatigue et à la précarité.
Et donc, en même temps, la main d'œuvre est plus importante, donc peut-être que le rapport de force n'est plus le même.
Le rapport de force est éclatant, puisque les industriels ont besoin de main d'œuvre et ils n'en ont pas assez. Donc, il y a une position sur le marché du travail qui est en faveur des salariés.
Et c'est pour ça qu'à cette époque, on assiste à la menace de révolution de la classe ouvrière un peu partout en Europe.
Alors, les ouvriers et les ouvrières, ils lisent les journaux. Et les journaux sont sous la censure, mais ils montrent ce qui se passe en Russie en 1917, de révolution quand même. Il montre ce qui se passe en Allemagne qui s'affaiblit au cours de l'année 1918 sur le front civil. Et il y a aussi, et il faut pas tout voir uniquement sur le registre de l'extérieur, même si l'extérieur compte beaucoup, il y a un désir de paix qui monte chez les ouvriers et les ouvrières avec l'épuisement et le fait que la guerre dure depuis 3 ans et va bientôt prendre 4 ans. Et donc les syndicats, de manière plus forte que ne l'est le Parti socialiste, mais qui va lui-même se trouver très divisé, les syndicats sont l'expression de ce désir de masse d'en finir avec la guerre, de changer la société et de faire reconnaître ce que les ouvriers ont fait pendant la guerre, les ouvriers, les ouvrières et les ouvriers étrangers étant, selon les cas, acceptés et soutenus par les syndicats, selon d'autres cas, moins bien traités.
Alors, il y a cette montée en puissance des syndicats ouvriers, mais c'est aussi un moment où les syndicats patronaux se transforment en véritables partenaires de l'État. Ils deviennent des interlocuteurs essentiels.
Alors, le comité des forges, le comité des houillères, les célèbres puissances de la République, mais aussi une organisation qui n'était pas grande avant la guerre, mais qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui est l'UIMM, l'Union des industries métallurgiques et minières, qui va devenir l'interlocuteur social de l'État, le gestionnaire des patrons pour dialoguer avec les syndicats, lorsqu'ils l'acceptent, et avec l'État pour à la fois faire venir des ouvriers de l'étranger, alimenter la machine à produire et pour gérer les rapports sociaux et les conflits sociaux. Donc, et enfin, la chimie qui était divisée en une poussière de petits syndicats va s'unifier. Donc, le patronat organisé devient de plus en plus fort et c'est ce qui va donner en 1919, mais à l'initiative de l'État, il faut bien le noter, la Confédération générale du patronat français, qui est la première organisation complètement unifiée et qui est l'ancêtre de notre actuel MEDEF.
Et alors, il y a différentes phases pendant la guerre, Patrick Fridençon, et notamment une longue phase de guerre de tranchées. Et c'est une relative immobilité du front qui nécessite toute une organisation pour approvisionner les soldats et permettre l'acheminement des armes. Et il fallait alors que les liaisons en transport soient le plus fluides possible.
Oui, alors c'est ce que nous disons dans notre livre « L'industrie dans la Grande Guerre ». C'est-à-dire que cette immobilité du front de fin 14 à début 1918, elle cache une mobilité extrêmement profonde. Alors, cette mobilité, c'est des moyens de transport très anciens qui existent, le cheval. Cette guerre est la dernière guerre du cheval.
Qui permet d'aller dans des terrains un petit peu inaccessibles.
Absolument, absolument. Mais c'est la guerre, je l'ai dit tout à l'heure, du chemin de fer. Mais c'est aussi la guerre des systèmes urbains de transport, les autobus. Et ces autobus vont être conduits de plus en plus par des femmes, puisque les femmes ne sont pas seulement dans les usines de guerre, elles sont aussi dans tout ce qui fait vivre les villes. Ça va être l'aviation. Alors là, pour le coup, une aviation militaire et où les Français aident la Russie. avant la Révolution, à se doter d'une aviation de guerre. Ça va être enfin les transports maritimes, mais qui vont faire face à la guerre sous-marine.
On a même pu dire, Patrick Fridenson, pardon de nous interrompre, mais que les camions avaient battu le chemin de fer allemand. On avait cet avantage en France, ça a très bien fonctionné.
Oui, alors pour deux raisons. La première, c'est qu'on avait une industrie automobile qui était plus grosse que l'industrie allemande, même si l'industrie allemande avait été la première véritable industrie automobile mondiale. Et que deuxièmement, sur des enjeux complètement centraux comme Verdun, les producteurs de camions se sont organisés pour faire rouler des camions tous les jours pendant le siège de Verdun, de manière à approvisionner Verdun en matériel, en nourriture et en troupes lorsque c'était le cas. Donc oui, le camion a été, cela a été souvent dit, le camion de la victoire, mais à l'intérieur d'un système de flux qui est une des caractéristiques de la guerre. La guerre, même immobile, passe par des flux.
Et c'est un moment où l'État va intervenir de plus en plus dans le secteur énergétique, qui est un enjeu important. Et lorsqu'arrive la fin de la guerre, l'enjeu, ça va être de reconvertir un certain nombre d'usines. Tous les secteurs ne vont pas y arriver de la même façon. Je me tourne vers vous, Jacques Fontanel. Quel bilan économique de la Grande Guerre peut-on tirer? Alors, est-ce que l'économie française est sortie durablement affaiblie du conflit, ou est-ce que, au contraire, ça a amorcé un mouvement de modernisation de l'industrie française qui avait déjà été amorcé au début du siècle? Les historiens, les économistes ne sont pas tellement d'accord sur ce point.
C'est quelque chose de très compliqué. Nous avons un économiste qui s'appelait Schumpeter qui disait toujours qu'il y avait la destruction créatrice, mais la destruction créatrice, si la destruction est trop forte, au bout d'un moment, il est difficile de créer. Je pense par exemple que dans le cas de la dernière guerre mondiale, de la première guerre mondiale, on peut se rendre compte que un des passages les plus importants sera ce fameux traité de Versailles. Traité de Versailles dans lequel il y aura une grande discussion, des oppositions importantes sur les indemnités. D'un côté, les Français voulaient que l'Allemagne paye. L'Allemagne doit payer. Et puis d'un autre côté, un grand économiste comme Keynes disait « Mais si l'Allemagne paye, il va y avoir une autre guerre. » Alors il l'explique de la manière suivante. Si l'Allemagne arrive effectivement à payer les indemnités, le jour où elle n'aura plus à en payer, elle sera tellement forte, tellement puissante que plus personne ne pourra jamais s'opposer à elle. Mais le cas le plus probable, dit-il, c'est que l'Allemagne ne s'en sortira pas et qu'il y aura, à un moment ou un autre, une guerre. Voilà, c'est donc savoir ce qu'une guerre va conduire ensuite comme résultat économique, c'est très, très, très délicat, très difficile.
En l'occurrence, le pays s'est beaucoup appauvri à la fin de la Première Guerre mondiale, et en même temps, il va connaître un boom très important dans les années 20, à tel point que le taux de croissance de l'industrie française va être le plus élevé de toute l'Europe.
Oui, bien sûr. Mais
est-ce qu'il faut faire une corrélation?
À partir du moment où vous avez des choses qui ont été très détruites, les taux de croissance peuvent vraiment augmenter de manière beaucoup plus rapide. Si vous avez un produit national de 1000 et qu'après il est de 500, vous pouvez... Vous n'êtes pas d'accord?
Patrick Fridenson.
Oui, bien sûr qu'il y a ce qu'on appelle une récupération de toutes les destructions de la guerre.
Bien sûr.
Mais ça n'est pas une récupération à l'identique. Vous avez le pétrole la guerre était encore limité, qui se développe massivement. Vous avez l'électricité, vous avez l'automobile qui devient une automobile pour les classes moyennes. Donc, on ne peut pas limiter la flambée de croissance des années 20 à uniquement une récupération.
J'ai dit simplement que c'est beaucoup plus facile d'avoir des taux de croissance très élevés une fois que vous avez eu vous-même une décroissance très importante. Il y a eu la guerre, bien sûr, mais il faut quand même penser que c'est une période d'innovation extraordinaire qui est liée, bien sûr, en partie à la guerre, mais aussi à bien d'autres domaines. C'est le développement de l'électricité, c'est le développement de la voiture, c'est le développement de tellement de choses à ce moment-là que, évidemment, parfois, certaines destructions ont pu être une chance parce qu'on se serait peut-être accroché à certains types de production qui étaient déjà surannées, dépassées. Là, on est allé tout de suite vers des choses beaucoup plus efficaces, quoi, plus intéressantes.
Les économistes se sont en tout cas emparés de la question des effets macroéconomiques des guerres. Vous parliez de Keynes tout à l'heure, Jacques Fontanel, dans un article publié en 1939. Keynes se demande si le réarmement mettra fin au chômage. À cette question, il répond oui, même s'il s'agit, selon lui, d'un pis-aller. Alors pourquoi cela ?
Ce qu'on a appelé, vous savez, quand vous augmentez les dépenses publiques, vous provoquez un effet multiplicateur. Cet effet multiplicateur fait en sorte que ça augmente, évidemment, le produit national. Le problème que cela pose, c'est que si vous êtes très endetté, au bout d'un moment, il faut rembourser et qu'il y a des effets contraires qui peuvent apparaître. Le problème qu'il va dire, c'est la chose suivante. Si vous augmentez les dépenses militaires, il y aura ce qu'on a appelé le keynésianisme militaire. C'est-à-dire qu'il y aura un effet positif. Mais dit-il, bien d'autres activités apporteraient bien plus que le secteur militaire. C'est-à-dire que si au lieu de se lancer dans le militaire, on faisait dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, les effets seraient considérablement plus élevé, beaucoup plus intéressant pour l'ensemble de l'économie.
Oui,
il s'est opposé d'ailleurs à ça. Il a dit, au début, ça provoque une croissance intéressante, mais au bout d'un moment, ça stagne. Et, dit-il, lorsqu'on se lance dans une course aux armements, en règle générale, on va jusqu'au bout et il y a une guerre au bout.
Alors il y a les théories sur les effets positifs sur l'économie des guerres ou les effets négatifs. En l'occurrence, la crise de 29 a pu être interprétée par certains économistes comme une conséquence de la Grande Guerre. Mais ensuite, la Seconde Guerre mondiale et la phase de croissance qui va suivre contredit plutôt cette vision, Jacques Fontanel.
En tout cas, en ce qui concerne l'entre-deux-guerres, on peut dire que c'est plutôt le traité de Versailles qui va conduire, à mon avis, à l'apparition de l'hitlérisme. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'habitais un endroit où on parlait un peu allemand du côté des Suisses. On nous disait toujours, l'Allemagne s'est développée, elle a des autoroutes, elle a des choses extraordinaires qui ont été faites, effectivement, pendant la période hitlérienne. Sauf que, si on relie le mémorandum que Hitler a fait, il le dit de manière très claire, 4 années pour développer le pays, 4 années pour se préparer à la guerre et préparer notre armée. C'est-à-dire que à un moment où ils se sont fortement endettés, où certainement l'économie allemande aurait connu certainement des grosses difficultés, à un moment, il faut utiliser l'arme pour faire l'effet aussi prédateur. C'est à ce moment-là, il y a l'effet puissance et l'effet prédateur qui vont jouer.
Et en même temps, l'économiste russe Kondratiev, cette fois, inclut la guerre dans sa théorie des cycles longs. Et pour lui, les guerres apparaissent au moment où la courbe de l'activité est au plus haut.
Oui, c'est pas toujours vérifié, parce que d'autant plus que la guerre, maintenant, elle est multiforme.
Patrick Fridançon.
Moi, ce que je retiens aussi de toute cette période, c'est que la France, qui était déjà un marchand d'armes avant la guerre de 14, va rester durablement un marchand d'armes jusqu'à aujourd'hui.
Et bien justement, on va y revenir dans notre émission de jeudi. On se demandera si l'industrie militaire doit être un garant de souveraineté. On réfléchira et on interrogera cet argument. Une dernière question très rapidement, Jacques Fontanel. Quel est aujourd'hui l'état des réflexions sur les effets macroéconomiques des guerres? C'est une question à laquelle il est évidemment difficile de répondre. En l'occurrence, il faut peut-être que ce sont peut-être des effets économiques temporaires.
Les économistes réfléchissent très peu à la guerre. Ils font comme s'il n'y avait pas de guerre. C'est très très peu nombreux.
Pourquoi cela ?
Alors, il y avait une très très bonne étude qui avait été faite dans les années 60. Kennedy avait lancé des scientifiques et leur avait demandé de réfléchir à l'utilité des guerres. Et puis, l'utilité des guerres. Hein. Et puis, se poser alors la question, pourquoi est-ce qu'il y a la guerre ? Et le résultat qui a pendant très longtemps été tenu secret, laissait entendre que tout système, le système dans lequel nous vivons, et notamment le système américain, avait besoin de la guerre pour créer une société qui soit plus respectueuse des lois, plus qu'elle ait en face d'elle-même un ennemi, quelque chose qui forme en quelque sorte de patriotisme, etc. Et que sans cet apport-là, eh bien, ça pose problème.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffany, bonjour à tous.
Vous avez choisi de vous intéresser aujourd'hui à l'épineux sujet des tarifs autoroutiers.
Oui, alors que le pays est aujourd'hui traversé par une aspiration à plus de justice fiscale, les autoroutes semblent être devenues le lieu aussi bien physique que symbolique de l'exaspération citoyenne face à la gestion dispendieuse et parfois cynique de nos infrastructures et de nos biens collectifs. Les occupations de péages et d'aires d'autoroutes, aussi bien que les dégradations de matériel autoroutier, semblent donc la manifestation d'une colère longtemps réfrénée face à la captation de l'intérêt général par des intérêts économiques et privés. Comme l'explique un ancien cadre d'une société autoroutière, lorsque l'État ne défend plus l'intérêt général, ce sont les citoyens qui se mobilisent pour le défendre eux-mêmes. Il faut dire que la hausse des tarifs annoncée à la mi-novembre a été ressentie comme une provocation supplémentaire alors que les gilets jaunes manifestent pour dénoncer la hausse des coûts de la mobilité et plus largement l'injustice d'un modèle qui les oblige à utiliser leur voiture tout en les punissant financièrement pour ces pratiques forcées.
D'autant que cette augmentation n'est que la dernière en date d'une longue série de hausses des prix des péages.
Oui, un article des Échos estime ainsi que depuis 2011, cette hausse a été de 12% en moyenne. Une moyenne qui cache néanmoins de fortes disparités puisque certaines portions d'autoroute, comme entre Tours et Rouen, ont vu leur prix s'envoler de près de 35%. Une hausse des tarifs de péage qui s'est bien entendu traduite par un renchérissement sans précédent du chiffre d'affaires des sociétés autoroutières. En 2017, celui-ci s'élevait ainsi à plus de 10 milliards d'euros contre 6,5 milliards au moment de la privatisation en 2006, soit une hausse de 55% du chiffre d'affaires en 10 ans d'exploitation privée.
Une privatisation largement critiquée à droite comme à gauche.
Oui, décidée en 2006 par le gouvernement Villepin, cette cession du réseau autoroutier à des exploitants privés a été dénoncée comme favorisant outrageusement les intérêts des entreprises comme Eiffage ou Vinci aux dépens des automobilistes et de l'État. L'autorité de la concurrence a elle-même dénoncé une véritable rente autoroutière dans un rapport de 2014 où elle estime que les tarifs des péages ont augmenté plus vite que l'inflation et ce, quelle que soit l'année concernée. Pourtant, les accords passés entre le gouvernement et les sociétés d'autoroutes interdisaient formellement aux entreprises d'augmenter leur tarif annuel au-delà des 70% d'inflation. Une mesure de bon sens qui a d'ailleurs été largement relayée par le gouvernement et les lobbies des entreprises concernées afin de convaincre les Français du bien fondé de cette mesure. Mais ce qu'ils ont peut-être oublié de préciser, c'est que ces mêmes contrats prévoyaient la possibilité de hausses additionnelles pour financer la rénovation et la modernisation du réseau autoroutier. Une clause qui a permis aux sociétés d'autoroutes d'augmenter allègrement leurs tarifs depuis 10 ans.
Le problème, c'est qu'il est très difficile d'évaluer le bon usage de cet argent par les entreprises.
Oui, d'autant que les entreprises qui gèrent les autoroutes sont aussi bien souvent des géants du BTP qui mènent cette modernisation. Difficile dans ces conditions de s'assurer l'utilisation optimale des deniers privés. Libération nous rappelle cependant qu'il n'y a jamais eu aussi peu de kilomètres d'autoroutes créés depuis la privatisation des concessions. À peine 167 kilomètres construits en 7 ans à comparer aux 9000 kilomètres de voies rapides existants. Ce n'est pourtant pas l'argent qui manque. Comme le rappelle encore Libération, l'État a cédé des concessions autoroutières au moment même où leur rentabilité commençait à s'envoler. Gorgées de marges exceptionnelles, les entreprises ont distribué depuis 2007, plus de 26 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Des chiffres vertigineux qui font apparaître plus vivement encore le cynisme de la réponse des sociétés autoroutières qui, entre deux hausses tarifaires, ont consenti à une ristourne de 30% pour 1 million d'usagers réguliers. Des chiffres qui nous interrogent surtout sur la responsabilité de brader des infrastructures construites sur les deniers publics sans qu'à aucun moment les Français eux-mêmes ne soient consultés. Soul. I beat the drum roll on cash in and ends with the words begin. The direct line reserved for the next of kin. Trouble we in, thinking we gon' save our skins. With a bucket full of bombs, through your arms. Setting off for the lunch cause the gunning is on. I got another type of weapon in the room, destroy. It's good for the moms that-
On se quitte avec le rappeur américain Bita Sayent et son arme secrète, Secret Weapon. Merci beaucoup Jacques Fontanelle et Patrick Fridançon de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On se retrouve demain pour une émission consacrée à la recherche militaire, tremplin de l'innovation. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.